sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Academy.
L'attribution de prix à des chercheurs français et étrangers est une des missions essentielles de l'Académie des sciences. Cette année 2008, deux séances sous la coupole étaient organisées pour remettre officiellement ces prestigieuses récompenses, une centaine au total. Après la cérémonie du 21 octobre 2008 que vous trouverez dans la médiathèque de Canal Academy, nous vous proposons la retransmission des meilleurs moments de la seconde cérémonie. Elle s'est déroulée le 25 novembre de cette même année. Vous entendrez successivement les interventions de Suzanne Solomon, spécialiste mondial de l'ozone et du climat, associé étranger à l'Académie des sciences, prix Nobel de la paix en 2007 conjointement avec Al Gore pour son travail au sein du GIEC, elle reçoit sous la coupole la grande médaille de l'Académie des sciences. Se succède la remise des grands prix de l'Académie avec le discours de clôture prononcé par Annie Cazenave, membre de l'Académie des sciences, directrice adjointe du laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS. Elle évoque l'apport de l'espace à l'étude de la planète. Mais tout de suite, laissons la place au président de l'Académie des sciences, Jules Hoffmann. Il énonce en introduction de cette cérémonie les résultats des travaux de l'Académie.
Monsieur le chancelier, monsieur le président de l'Institut, messieurs les secrétaires perpétuels, chers consœurs et confrères, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième séance solennelle de remise des prix de l'Académie des sciences, au cours de laquelle nous décernerons en particulier la grande médaille de l'Académie, qui est notre prix annuel le plus prestigieux. Avant de vous faire, avec mes confrères du bureau, la lecture du palmarès, permettez-moi, comme il est d'usage, de vous donner quelques informations sur l'activité de notre compagnie en 2008. Nous nous apprêtons à élire le mois prochain 11 nouveaux membres, ce qui portera le nombre total de nos membres à 250, auxquels s'ajoutent 120 correspondants et 130 membres associés étrangers. Je rappelle que de 2001 à 2005, nous avons eu la possibilité d'élire 100 nouveaux membres, dont la moitié devait obligatoirement être âgée de moins de 55 ans. La restriction d'âge restera d'ailleurs en vigueur pour toutes les élections futures à l'Académie des sciences. La vague d'élections depuis 2001 a eu des conséquences très importantes pour notre compagnie. En effet, sur les 250 membres actuels, plus de la moitié ont été élus depuis 2001, et l'âge moyen est désormais d'environ 60 ans. La grande majorité des membres sont en activité dans leur laboratoire et tous continuent à participer à des colloques internationaux, ce qui fait de notre Académie une communauté avertie, réactive, indépendante, et nous met dans une position excellente pour donner des avis scientifiques pertinents. Donner des avis scientifiques au gouvernement et à la société représente l'une des principales fonctions de notre Académie, comme des académies des sciences des autres grands pays. Je voudrais brièvement illustrer notre activité récente dans ce domaine précis. L'Académie a été saisie en 2007-2008 par le ministre de l'Éducation nationale, M. Xavier Darcos, pour donner son avis sur l'enseignement des sciences à l'école primaire, au collège et au lycée. Nous sommes heureux de dire que nos avis ont été largement pris en compte par le ministre, qui est venu lors de la séance du 18 novembre, c'est-à-dire il y a une semaine, discuter avec nous en séance de la place de la science dans l'enseignement. Nous avons par ailleurs pris l'initiative de recommander au ministre la nécessaire introduction d'un enseignement concernant le monde numérique et l'initiation à l'informatique. Le ministre s'est déclaré réceptif à cette recommandation. Au printemps 2008, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Valérie Pécresse, a demandé à notre Académie de préparer un rapport sur l'attractivité des métiers de la recherche. Un groupe d'académiciens a travaillé pendant 3 mois sur ce sujet capital pour la science et les scientifiques dans notre pays. Et ce groupe a préparé un rapport qui fut longuement discuté en comité restreint et en assemblée générale. La ministre est venue à deux reprises à l'Académie, une première fois pour discuter des contours de la problématique, une deuxième fois pour nous informer des décisions que notre rapport la conduirait à prendre. Je rappelle que notre rapport, largement diffusé et commenté dans la presse nationale, préconise le recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs à un niveau plus élevé qu'actuellement, en prenant en compte dans leur totalité les activités de recherche depuis l'entrée en thèse. Il préconise également une plus rapide évolution des carrières en fonction de la qualité des travaux, dûment et indépendamment évalués, et propose l'attribution de primes significatives aux meilleurs enseignants-chercheurs et chercheurs, ce qui devrait permettre d'augmenter leur rémunération globale de 50 à 80% par rapport à la situation actuelle. Le rapport plaide pour une réduction des charges d'enseignement pour les jeunes maîtres de conférences. Enfin, le rapport insiste sur la nécessité d'une meilleure reconnaissance de la thèse de doctorat dans la société. Nous sommes particulièrement heureux de voir que les propositions essentielles faites par l'Académie ont été prises en compte par la ministre et le gouvernement, et nous pensons avoir ainsi contribué de façon importante à l'amélioration de la situation des enseignants-chercheurs et chercheurs dans notre pays. Le ministère a également demandé à l'Académie de faire des propositions de maquettes de structuration du CNRS en institut disciplinaire et de préciser leur périmètre, leur mission et leur mode d'intervention. Par ailleurs, à la suite d'une demande du ministère, plusieurs de nos membres, biologistes et médecins, ont participé à un groupe de travail sur la réorganisation des structures de recherche dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Ces rapports sont actuellement entre les mains de la ministre et une série de mesures sont attendues avant la fin de l'année. D'après nos informations, les avis de l'Académie, là encore, seront largement pris en compte. Tous nos avis ne sont pas nécessairement suivis d'effets aussi nets. Nous avons reçu la secrétaire d'État, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, en séance pour parler de l'environnement et des plantes génétiquement modifiées. Nous avons par la suite organisé un colloque de 2 jours ici à l'Académie sur la biotechnologie végétale et émis un avis scientifique positif sur le principe des OGM et leur culture encadrée. Cet avis vient d'être remis au ministre M. Jean-Louis Borloo et à Mme Kosciusko-Morizet. Nous attendons leur réaction. En dehors des avis sollicités, l'Académie a réalisé ces derniers temps plusieurs rapports importants qui sont ou seront publiés et qui portent sur différents sujets d'actualité, dont la fusion nucléaire, les cycles biogéochimiques et écosystèmes continentaux, les événements climatiques extrêmes et leurs influences sur les écosystèmes, les hormones et leur influence sur la santé publique, et la biosécurité et les responsabilités des scientifiques dans ce domaine. Je voudrais aussi signaler qu'au cours de cette année, l'Académie a fortifié ses relations avec un éditeur international, Elsevier, en charge de la publication des comptes rendus de l'Académie. Cette série connaît actuellement un réel regain d'intérêt dans toutes les disciplines. Une autre fonction de l'Académie des sciences est de jouer le rôle d'ambassadeur de la science française. Nous avons ces derniers temps établi des liens institutionnels forts avec les académies des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Chine, de Russie et du Brésil. Nos relations sont désormais particulièrement fortes avec l'Académie des sciences Léopoldina d'Allemagne. Celle-ci fut créée comme Académie du Saint-Empire à la même époque que notre propre Académie, c'est-à-dire vers le milieu du XVIIe siècle, et a coexisté en Allemagne avec 8 académies régionales. Elle a été récemment élevée par les autorités fédérales au rang d'Académie nationale et lors de la cérémonie qui a réuni au mois de juillet en Allemagne un millier de scientifiques en présence des autorités fédérales, ce fut notre Académie qui fut invitée à faire la conférence solennelle sur le rôle et les responsabilités d'une Académie nationale au XXIe siècle. Plusieurs colloques furent par ailleurs organisés récemment entre nos deux académies. Je voudrais aussi souligner le rôle que joue actuellement notre Académie dans la construction de l'espace méditerranéen de la science. Le travail, somme toute considérable, que nous sommes ainsi amenés à fournir, n'empêche pas, bien au contraire, la tenue de nos séances hebdomadaires consacrées avant tout à des débats scientifiques et des conférences de haut niveau. Des conférences sont régulièrement organisées sous le label « Défis scientifiques du XXIe siècle » et ouvertes au public. Les plus récentes cette année ont porté sur les maladies émergentes et sur les mathématiques financières. Elles ont connu un succès réel et attiré un nombreux public. Avant de passer à la lecture du palmarès, permettez-moi de souligner la joie que nous avons ressentie à l'Académie des sciences lors de l'attribution du prix Nobel de médecine à deux chercheurs français qui nous sont proches, notre confrère Luc Montagnier et Françoise Barry-Sinoussi de l'Institut Pasteur. Le troisième membre du groupe qui partage le prix Nobel de médecine 2008, Harald Zurhausen, est également très proche de notre Académie et vice-président de l'Académie Leopoldina d'Allemagne que je viens d'évoquer. Il a participé, entre autres, à la réunion de notre Académie à Strasbourg au mois de mai. Je voudrais maintenant entamer la lecture du palmarès des prix et commencerai par la médaille qui est décernée à Madame Solomon, co-lauréate du prix Nobel de la paix pour 2007. Suzanne Solomon est connue internationalement comme un des leaders dans les domaines de la recherche sur l'atmosphère et sur le climat. Après une thèse de chimie soutenue à l'Université de Californie à Berkeley, Suzanne Solomon a obtenu un poste de chercheur au laboratoire d'aéronomie dépendant de l'administration nationale des océans et de l'atmosphère situé à Boulder, au Colorado, où elle exerce actuellement les fonctions de professeur. Les recherches de Suzanne Solomon ont porté sur les thèmes suivants. Étude des processus de photochimie et de transport dans la stratosphère et la mésosphère. Observation par méthode spectroscopique et interprétation de la diminution d'ozone à moyenne latitude et dans les régions polaires. Couplage entre la composition atmosphérique et le climat. Ces travaux ont fourni non seulement les mesures clés, mais aussi l'interprétation théorique qui a permis de comprendre les processus qui sont à l'origine de la destruction de l'ozone au-dessus des deux pôles. En effet, grâce aux mesures que Suzanne Solomon a effectuées lors des campagnes en Antarctique et grâce à l'interprétation qu'elle leur a donnée, les chlorofluorocarbones ont été identifiés comme responsables de la destruction de l'ozone. Tout au long de la carrière de Suzanne Solomon, on retrouve cette capacité de lier mesure, théorie et modélisation pour proposer des interprétations nouvelles pour des phénomènes complexes. Ses recherches actuelles sont en continuité avec ses travaux sur l'ozone stratosphérique et sur l'étude des relations entre composition atmosphérique et climat. Depuis quelques années, Suzanne Solomon s'est fortement engagée en tant que coprésidente dans le groupe de travail chargé de faire l'état des connaissances sur la physique et la chimie du climat. Le rapport fait par ce groupe, connu sous l'acronyme des GIEC, a été accepté en février 2007 au cours d'une assemblée plénière que Suzanne Solomon a présidée et au cours de laquelle elle a démontré à la fois sa maîtrise du sujet et sa remarquable stature scientifique. Elle a présenté les résultats de ses travaux lors d'une séance à l'Académie des sciences le 6 février 2007. La passion de Suzanne Solomon pour l'histoire, pour la science, l'a conduite à rédiger plusieurs livres, dont je voudrais citer ici « The Coldest March », qui relate la dramatique expédition antarctique du capitaine Scott qu'elle met en rapport avec une étude des conditions météorologiques que Scott a rencontrées. Plus récemment, et avec cette même curiosité à comprendre l'impact des conditions météorologiques dans la vie des grands explorateurs, elle vient de publier un long article sur Lewis et Clark, les deux pionniers bien connus de la conquête de l'Ouest américain. I read it. La découverte des causes du trou d'ozone a valu à Susan Solomon un grand nombre de distinctions. En mars 1994, un glacier de l'Antarctique a été nommé en son honneur, en reconnaissance de ses travaux. Puis en mars 2000, elle a reçu la National Medal of Science, qui est la plus grande distinction scientifique aux États-Unis et qui lui a été remise par le président Clinton. Enfin, en 2004, le très prestigieux Blue Planet Prize lui a été attribué. Susan Solomon est entre autres membre de la National Academy of Sciences des États-Unis et membre associé étranger de notre Académie. Enfin, comme nous le savons tous, elle a été récompensée avec les membres du GIEC par le prix Nobel de la paix 2007, conjointement avec Al Gore. Susan Solomon.
Messieurs les secrétaires perpétuels, chers collègues, mesdames, messieurs, je dois vous avouer ma stupéfaction quand j'ai appris que vous aviez l'intention de me décerner la grande médaille de l'Académie des sciences. Il va être difficile pour moi de vous exprimer toute ma reconnaissance. Je suis arrivée en France il y a plus de 30 ans dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants. J'ai vite appris à admirer cette grande nation. Alors vous pouvez dès lors imaginer à quel point je ressens une très grande humilité à l'occasion de cet événement tout particulier dans ma vie. Je voudrais vous raconter un peu sur mon parcours scientifique, la chance que j'ai eue de rencontrer des amis pendant ce parcours et exprimer les espoirs que je place dans la science de l'environnement et des choix de société pour ce 21e siècle. Mon expérience scientifique la plus riche a débuté en Antarctique. La découverte du trou d'ozone, il y a plus de 20 ans, par les scientifiques du British Antarctic Survey, a représenté un véritable choc pour la communauté scientifique. J'ai proposé une hypothèse sur la formation de cet étrange phénomène, un mystère total à cette époque. J'ai aussi eu le grand honneur de conduire une équipe de 16 merveilleux collègues en Antarctique en 1986. Nous avons ensemble effectué les premières mesures des constituants chimiques qui ont démontré la responsabilité des chlorofluorocarbures d'origine humaine, ce qu'on appelle les CFC, dans la formation de trous d'ozone. Dans cet endroit froid et désolé, j'ai vécu une expérience remarquable, une de ces expériences qui n'arrivent qu'une fois dans la vie pour quelques heureux heureux. Un des plus grands privilèges dans une carrière scientifique est de pouvoir, en équipe, définir et développer la science. J'ai eu la chance de travailler non seulement sur ces thèmes de recherche fascinants, mais aussi de le faire avec des collègues exceptionnels de la NOAA, et bien d'autres au niveau international, car la recherche en environnement est par nécessité d'envergure internationale. Et cette expérience a donné une dimension à ma vie qui s'entend bien au-delà de la science. J'apprécie maintenant de façon plus profonde comment la science peut servir la société et combien ce service est crucial pour le monde. Le problème des trous d'ozone était fondamentalement différent des problèmes perceptibles, comme la pollution de l'air en milieu urbain. Dans les villes comme Los Angeles, tout le monde peut voir, sentir ou même parfois goûter l'air pollué. Par contre, le trou d'ozone n'est pas directement accessible au sens humain. L'ozone nous protège d'un rayonnement qui est certes dangereux, mais que l'être humain ne décèle pas. De plus, il est difficile de s'émouvoir d'un phénomène se produisant dans un endroit aussi éloigné de l'activité des hommes. Mais en dépit de ces difficultés, les hommes partout dans le monde ont cherché à comprendre ce phénomène. Et pour moi, c'était une aventure passionnante de raconter l'histoire d'ozone autant de communautés différentes. Je trouve remarquable que tant de personnes soient curieuses à propos de l'environnement. Comme les scientifiques, elles sont inspirées par la science car elles envoient la beauté, des vérités élégantes, des vérités apportant de la logique et de la rationalité dans notre société qui est soumise aujourd'hui à tant de demandes contradictoires. Le monde est devenu curieux et a compris des vérités sur la couche d'ozone et les gouvernements ont décidé d'agir. Les CFC ne sont pratiquement plus fabriqués de nos jours. Les CFC émis dans le passé et actuellement présents dans l'atmosphère vont se décomposer lentement. Et on peut donc s'attendre que le trou d'ozone disparaisse aux environs des années 2060. Oui, c'est long. Mais bien que ça soit long, les sciences peuvent parfois montrer la voie et conduire à des décisions surprenantes par le simple pouvoir de la logique. Aujourd'hui, le monde se trouve face à un problème plus important pour la gestion des risques, le changement climatique. Et j'ai eu le grand honneur de servir en tant que coprésident du groupe de sciences du GIEC. Nous avons présenté notre rapport en 2007, après plus de 2 ans de travail. Et je suis très, très reconnaissante d'avoir pu travailler en équipe avec plus de 150 auteurs provenant de plus de 30 pays différents. La nature transcendantale de la science pousse les scientifiques à abolir leurs différences nationales et culturelles. Cela rend la science extrêmement importante pour l'humanité dans sa lutte avec des problèmes à l'échelle globale. Ce fut pour moi exultant et un grand honneur d'être une membre scientifique de ce groupe. L'attribution du prix Nobel de la paix à GIEC, partagé avec M. Al Gore Jr., fut un honneur qui revient non au groupe de scientifiques qui travaillent dans le cadre du GIEC, mais plus largement à la science en tant qu'entreprise. Ce prix est un signal montrant le rôle de la science pour la paix dans le monde. Je pense que la science est absolument nécessaire pour garantir des décisions justifiées au cours du XXIe siècle. Notre monde aujourd'hui peut parfois sembler être tombé dans l'obscurité. L'éclairage de la science constitue un phare pour aller de l'avant. Cela ne veut pas dire que je demande à la science de prendre la place de la politique. Bien au contraire, je lance un appel à la connaissance, car la science de qualité est nécessaire pour proposer des actions de toutes sortes, ou bien pour choisir l'inaction. Il est essentiel que la société, dans son ensemble, s'achemine vers le futur en étant bien informée et en gardant les yeux bien ouverts. Il est évident que le changement du climat est un défi de dimension extraordinaire et nous subirons les effets de nos décisions pendant plusieurs décennies. À long terme, les actions du gouvernement sont liées toujours au pouvoir de l'opinion publique et la participation des citoyens du monde est essentielle. C'est le devoir de la science de faire partie intégrale du processus d'information, de réflexion et de prise de décision. C'est donc avec optimisme que je pense que la société réussira à relever ce défi et à prendre des mesures appropriées et raisonnées comme le monde a déjà fait dans le cas du trou d'ozone. Pour conclure, je voudrais citer une des plus grandes scientifiques françaises, Madame Curie, qui a dit « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Cet aphorisme avisé est clairement d'actualité pour les sciences de l'environnement et la prise de décision liée au changement climatique. Merci infiniment pour votre attention et merci encore pour cet honneur incomparable.
Merci beaucoup, Madame Solomon. Nous allons maintenant continuer la lecture du palmarès et nous passons au prix AGF, Institut de France, décerné à Monsieur Casanova.
Le prix AGF, Institut de France, est décerné à Jean-Laurent Casanova, professeur des universités, praticien hospitalier, directeur du laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses à l'hôpital Necker en Famalade à Paris. Les travaux de Jean-Laurent Casanova ont permis d'identifier de nouveaux déficits immunitaires héréditaires monogéniques exposant certains enfants à des infections graves. Ces infections peuvent être dues, selon les cas, à des mycobactéries, à des bactéries pyogènes ou à des virus herpétiques. Ainsi, il a été montré que la BCGite généralisée, qui est une complication gravissime, heureusement rare, observée chez certains enfants vaccinés par le BCG, pouvait être due à des mutations dans des gènes codant pour les différentes chaînes de l'interféron gamma ou de l'interleukine 12 ou de son récepteur, ou pour des molécules comme statin ou le facteur NEMO intervenant dans la signalisation de la voie NF-kappa-B. Jean-Laurent Casanova a également montré plus récemment que des mutations dans des gènes intervenant dans la voie de signalisation TOL, cher à notre président, en particulier TLR3, pouvaient être à l'origine d'encéphalite herpétique par défaut de production d'interféron alpha. Les travaux de Jean-Laurent Casanova ont une importance considérable, non seulement pour un des premiers abords de la génétique des maladies infectieuses, mais également pour la compréhension de la physiopathologie des infections microbiennes, avec des applications très importantes, tant au niveau du diagnostic que de la thérapeutique. Jean-Laurent Casanova.
Nous poursuivons avec le prix EADS informatique à Monsieur Villemain.
Le prix est décerné à Jean Villemain, directeur du laboratoire d'informatique à l'École normale supérieure à Paris. Expert international de sémantique, d'algorithmique et de concepteur de circuits, Jean Villemain a développé l'analyse des algorithmes comme une surface essentielle entre l'informatique et les mathématiques, et comme un domaine de grande importance pour de nombreuses applications. Toujours à l'école des besoins industriels, il a contribué par ses travaux à la mise au point d'importants algorithmes des circuits et des processeurs. Il joue un rôle majeur dans l'enseignement de l'informatique en France et en particulier à l'Université d'Orsay, à l'École polytechnique, à l'École normale supérieure. Il est en outre un animateur exceptionnel de notre communauté, aussi bien industrielle qu'académique. Jean Villemain.
Le prix EADS Sciences de l'information va à Monsieur Vergassola.
Le prix EADS Sciences de l'information est attribué à Massimo Vergassola, directeur de recherche à l'unité génétique in silico à l'Institut Pasteur à Paris. Après avoir contribué de façon très importante au domaine de la dynamique statistique des fluides, en particulier en astrophysique, Massimo Vergassola s'est orienté vers la biologie, où très vite il a pu faire progresser le problème très délicat de l'identification des courtes séquences actives dans les génomes en utilisant des méthodes statistiques dérivées de la physique. Massimo Vergassola a proposé une nouvelle formulation d'un concept original de traitement de signaux désordonnés permettant d'expliquer comment des organismes vivants peuvent détecter la position d'une source émettrice de substances à de grandes distances sans dépendre d'un gradient de concentration. Il a pu ainsi expliquer comment des animaux, en particulier des insectes, pouvaient reconnaître et répondre à des odeurs telles que les phéromones pour se déplacer vers la source de ces odeurs dans un but d'accouplement, et cela malgré la destruction éventuelle des gradients de concentration par des éléments intercurrents, notamment le vent. Cette stratégie a été utilisée pour le développement de nouveaux robots. Massimo Vergassola.
Prix EADS Sciences et Ingénierie, Jean-Luc Isler.
Le prix de la Fondation EADS Sciences et Ingénierie est décerné à Jean-Luc Isler, chef du service intitulé Technique de transmission et traitement du signal au laboratoire de radionavigation et transmission du Centre national d'études spatiales, le CNES, à Toulouse. Les travaux de Jean-Luc Isler ont fortement contribué à l'évolution récente du domaine de la radionavigation et des transmissions grâce à de nombreuses innovations. J'en soulignerai, par exemple, qu'il a été l'inspirateur et l'artisan principal de la mise en place dans l'industrie française d'une filière de réception des GPS spatiaux et qu'il a contribué de manière prépondérante à la définition de signaux du système Galileo et de leur compatibilité et interopérabilité avec ceux du système GPS. Jean-Luc Isler.
Le prix franco-taïwanais. Le prix de la Fondation scientifique franco-taïwanaise est décerné conjointement à Marc Bénard, Marie-Madeleine Romer, directeur de recherche au CNRS au laboratoire de chimie quantique à l'Institut de chimie de Strasbourg, et à M. Peng Xieming, professeur de chimie organique à la National Taiwan University of Taipei. Marc Bénard et Marie-Madeleine Romer et leurs équipes sont spécialisés en chimie théorique et ont réalisé des travaux de tout premier plan sur la compréhension de la liaison chimique métal-métal et la modélisation quantique de la structure et de la réactivité de molécules organométalliques. Leurs travaux s'orientent actuellement vers les nanostructures et les fils moléculaires. Peng Xieming est un chimiste mondialement connu qui s'est particulièrement distingué dans la synthèse et l'étude des chaînes métalliques conductrices et de leurs applications potentielles comme molécules conducteurs-interrupteurs moléculaires en nanoélectronique. Il est l'auteur de plus de 700 publications. Il est membre de Academia Sinica. La collaboration entre les deux groupes, débutée en 2004 dans le cadre d'un projet Modeling Nanowires, a permis de nombreuses avancées expérimentales et théoriques pour la compréhension de la structure et des propriétés électroniques et magnétiques des conducteurs métalliques moléculaires. Marc Bénard, Marie-Madeleine Romer et M. Peng. Voilà, alors, le prix Ampère de l'électricité de France va à M. Yoss.
Le prix est décerné en effet à Gérard Yoss, professeur à l'université de Nice, Sophia Antipolis, membre de l'Institut universitaire de France au laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné à Nice. Gérard Yoss est l'un des grands spécialistes mondiaux de la mécanique non linéaire. Ses travaux sur les fluides visqueux emportent des contributions certaines à la compréhension de la transition qu'on qualifie de douce vers la turbulence via des ruptures syntechniques successives des symétries. Dans le domaine des fluides parfaits, il domine un éclairage nouveau sur les phénomènes d'ondes solitaires. Il est à l'origine de l'école française de mécanique des fluides non linéaires. Il a particulièrement animé cette équipe, cette discipline active et réputée dans tout le niveau international. Gérard Yos.
Le prix du commissariat à l'énergie atomique. Faisant suite à la célébration récente du 100e anniversaire du premier prix Nobel français de chimie, décerné à Henri Moissan en 1906 pour la découverte du fluor, l'Académie distingue aujourd'hui trois éminents spécialistes de ce domaine important de la chimie. Jean Risse, Paul Rigny et Alain Tressot. Jean Risse, professeur aux universités de Nice et de Californie à San Diego, a réalisé des travaux remarquables en chimie moléculaire des systèmes fluorés et perfluorés qui ont conduit à des applications biomédicales comme substitut du sang ou marqueur en résonance magnétique nucléaire. Paul Rigny, ancien directeur du laboratoire de chimie physique et de séparation isotopique du CEA, a caractérisé finement par RMN l'hexafluorure UF6 ainsi que des molécules associant plusieurs halogènes utilisées souvent comme modificateurs de surface. Alain Tressot, directeur de recherche au CNRS à l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux, a fait de nombreuses contributions fondamentales sur les valences élevées des éléments de transition de la famille du platine, particulièrement sur les exceptionnelles propriétés électroniques du trifluorure PdF3 sous pression, le premier fluoreur métallique connu. En chimie des matériaux, on lui doit l'intercalation d'espèces fluorées dans le graphite, conduisant à des matériaux légers dont la conductivité électronique égale celle du cuivre. Jean Risse, Paul Rigny et Alain Tressot. Prix France Télécom va à M. Benveniste.
Le prix est décerné à Albert Benveniste, directeur de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et automatique, l'INRA, à Rennes. Albert Benveniste est un expert mondialement reconnu dans le domaine de l'informatique, de l'automatique et des télécommunications. Son rayonnement scientifique traverse ces trois domaines avec un impact plus particulièrement centré sur plusieurs d'entre eux. Citons par exemple l'identification des systèmes, le traitement du signal adaptatif, la programmation synchrone et l'informatique des systèmes embarqués. Albert Benveniste.
Prix de la Fondation pour la recherche biomédicale, PCL, va à M. Lévy.
Le prix de la Fondation de la recherche biomédicale, PCL, Institut de France, est attribué à Bernard Lévy, chef du laboratoire cardiovasculaire de l'INSERM à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bernard Lévy est un grand spécialiste international de la biologie vasculaire. Il a apporté des idées nouvelles permettant de mieux comprendre la dynamique vasculaire et a proposé des nouvelles méthodes de mesure et d'analyse des paramètres hémodynamiques. Spécialiste de la microcirculation artériolaire, il a montré comment l'hypertrophie et la fibrose des parois artérielles au cours de l'hypertension artérielle et du vieillissement pouvaient être corrigées par blocage du système hormonal rénine-angiotensine. Il a proposé le concept de remodelage vasculaire selon lequel la normalisation du fonctionnement artériel passait par une correction des contraintes structurales. Plus récemment, il s'est intéressé aux relations qui existent entre l'ischémie, c'est-à-dire l'ensemble des processus de manque d'irrigation du tissu cardiaque qui précède éventuellement l'infarctus du myocarde et l'inflammation au cours de l'angiogénèse, la néovascularisation qui suit cette ischémie. Bernard Lévy est un des grands acteurs internationaux de la recherche cardiovasculaire à l'interface de la recherche fondamentale et de la recherche clinique. Bernard Lévy.
Le prix Jacques Herbrand est décerné à Monsieur Besombe.
Le prix ira à Lucien Besombe, chargé de recherche au CNRS, au laboratoire de spectrométrie physique à l'Institut Louis-Néel de Grenoble. Lucien Besombe a contribué de façon essentielle au développement des études de spectroscopie optique sur les structures nanométriques que sont les boîtes quantiques. Il a préservé et précisé leurs propriétés physiques et mis en évidence l'importance de leur interaction avec leur environnement. Il a ainsi détecté le moment magnétique d'un atome unique dans une boîte quantique unique. Lucien Besombe combine... Vous avez raison, mais je voudrais résumer cette œuvre en disant qu'il combine des qualités d'expérimentateur hors pair et une aisance considérable dans l'utilisation des concepts de la physique et de l'optique quantique. Maintenant, allez-y.
Si nous passons au prix Emilia Valori, qui est décerné à Gérard Jebel.
Le prix est décerné à Gérard Jebel, directeur du laboratoire polymère conducteur ionique au commissariat à l'énergie atomique à Grenoble. Gérard Jebel est un grand spécialiste international des polymères à conducteur ionique, plus particulièrement dans leurs applications comme électrolyte solide dans les piles à combustible. Il a contribué de façon importante à la détermination de la structure du nafion, qui est une des membranes de référence dans le monde des piles à combustible, et a participé au développement d'autres membranes, notamment à polyimide et à polyimidazole sulfoné. En collaboration avec des laboratoires de recherche technologique du CEA à Grenoble, ainsi qu'avec des industriels, Gérard Jebel a pu utiliser les instruments des grands équipements pour sonder l'eau dans les piles à combustible en fonctionnement réel, ce qui a permis d'étudier les mécanismes de la dégradation. De fait, le lien entre conduction ionique, contrainte de l'eau dans les membranes, gonflement et dégradation représente un problème essentiel dans les piles à combustible en industrie automobile, en raison de l'usure prématurée des membranes actuellement utilisées, en raison de la corrosion. Gérard Jebel.
Le prix Victor Noury va à Bérangère Dubrulle.
Ce prix de l'Institut de France est décerné à Bérangère Dubrulle. Directeur de recherche au CNRS, au service de physique de l'état condensé, au CEA, à Saclay, de Gif-sur-Yvette. Physicienne d'une grande originalité, Bérangère Dubrulle a bousculé les idées reçues dans de nombreux domaines qu'elle aborde de manière notamment très forte. Et parmi ces propositions, nous retiendrons ce qu'elle a fait pour le transfert de moments cinétiques dans les disques circumstellaires, sur la mécanique statistique des écoulements axisymétriques et sur le traitement des petites échelles turbulentes. Son dynamisme, sa créativité porte autour d'elle une animation très recherchée et une activité scientifique de la plus grande valeur, Bérangère Dubolle.
Merci beaucoup. Nous allons passer au grand prix thématique. Le prix Thérèse Gautier.
Le prix Thérèse Gautier est décerné à Jean-Pierre Vintemberger, professeur au département de mathématiques à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Jean-Pierre Vintemberger est l'un des plus grands spécialistes de l'utilisation des méthodes péadiques en géométrie algébrique. Il a amélioré notre compréhension de l'arithmétique des variétés sur les corps de nombres. Le prix Thérèse Gautier lui est attribué pour ses résultats profonds sur les propriétés tanakiennes des motifs et surtout pour sa contribution spectaculaire avec Chandrasekhar Karré à la résolution de la conjecture de modularité de Serre sur les représentations de dimension 2 à coefficient dans un corps fini du groupe de Galois absolu du corps des nombres rationnels. Jean-Pierre Vintemberger.
Le prix Sophie Germain.
Le prix est attribué à Hakan Eliasson, professeur à l'Institut de mathématiques de Jussieu, à l'Université Denis Diderot à Paris. Hakan Eliasson a effectué plusieurs avancées conceptuelles décisives sur des problèmes de petits diviseurs en systèmes dynamiques et physique mathématique. C'est un analyste dans la très grande tradition suédoise. Il a démontré la persistance des tors invariants isotropes, non lagrangiens, pour les systèmes hamiltoniens presque complètement intégrables. Il a découvert un mécanisme de compensation dans les séries de Lindstedt. Il a prouvé la réductibilité presque sûre des équations de Schrödinger à petit potentiel quasi-périodique. Et il a obtenu plusieurs autres résultats importants sur les équations de Schrödinger linéaires et non linéaires. Hakan Eliasson.
Le prix Jaffé.
Le prix Jaffé de mathématiques est décerné à Frédéric Campana, professeur à l'Institut Élie Cartan à l'Université de Nancy 1. Les travaux de Frédéric Campana en géométrie algébrique ont une notoriété internationale. Ils inspirent de nombreux chercheurs dans le monde du fait de leur caractère fondateur et universel. Son œuvre apporte une contribution primordiale à l'étude du groupe fondamental des variétés kellériennes compactes et à celle de la structure et de la classification des variétés complexes dans un cadre très général de géométrie algébrique ou analytique. Frédéric Campana.
Le prix Servant.
Le prix Servant est décerné à Guy Métivier, professeur à l'Institut de mathématiques à l'Université de Bordeaux. Guy Métivier est un mathématicien profond et original, auteur d'une œuvre considérable en théorie des équations aux dérivées partielles non linéaires. Il a notamment répondu par la négative à une célèbre conjecture due à Jacques Adamard en 1903 sur l'unicité du problème de Cauchy. Il a mis en place tout un arsenal théorique permettant l'étude mathématique rigoureuse de la propagation et de l'interaction d'ondes non linéaires à haute fréquence. Excusez-moi. Les résultats qu'il a obtenus dans ce domaine sont fondamentaux et les méthodes qu'il a introduites sont devenues incontournables. Il a également consacré toute une série de mémoires aux équations de la mécanique des fluides à viscosité évanescente et obtenu notamment des résultats cruciaux de stabilité. Guy Métivier.
Le prix Paul Doisteau-Émile Bluté.
Le prix Paul Doisteau-Émile Bluté de biologie moléculaire et cellulaire génomique est décerné à Giacomo Cavalli, directeur de recherche au CNRS à l'Institut de génétique humaine à Montpellier. Giacomo Cavalli est une des références internationales de l'épigénétique. Ses travaux ont contribué à faire émerger la notion nouvelle d'une mémoire cellulaire conservée au cours des divisions cellulaires, mémoire liée à des modifications de la chromatine transmissible aux générations suivantes. Giacomo Cavalli a identifié les protéines et les modifications de l'ADN responsables de cette mémoire. Plus récemment, son laboratoire a démontré que l'architecture des chromosomes et la position des modules de mémoire dans le noyau participaient aux mécanismes définissant cette mémoire. Les travaux de Giacomo Cavalli ont également démontré l'existence d'une relation inattendue entre la mémoire épigénétique et les mécanismes de l'oncogénèse. Giacomo Cavalli a décrit une action anti-oncogénique d'un facteur polycombe dont il avait contribué à montrer l'implication dans les mécanismes de la mémoire épigénétique. Giacomo Cavalli.
Prix Étienne Roth du CEA.
Le prix est décerné à Maude Boyer, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au laboratoire Magmas et Volcans, à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Maude Boyer a étudié la composition isotopique du néodyme d'échantillon dans une grande quantité d'échantillons terrestres, dans des météorites et dans des échantillons lunaires. Elle est rapidement devenue une spécialiste reconnue des anomalies isotopiques du samarium 146, néodyme 142 et de l'étude couplée des méthodes samarium néodyme, lutécium hafnium, deux méthodes. Elle a notamment mis en évidence une différence isotopique du néodyme 142 entre la Terre et les météorites. Comparé aux chondrites, ces échantillons présentent un excès de masse de l'isotope 142 du néodyme. Cet excès lui a permis de préciser le moment où la composition de la Terre a divergé de celle des météorites dans les 30 premiers millions d'années qui suivent la formation du système solaire. Le manteau se serait rapidement scindé en couches chimiques distinctes après le stade de l'océan magmatique. La cristallisation rapide de cet océan aurait ensuite provoqué l'évolution du manteau, certaines couches n'ayant pas été remélangées depuis leur formation. Les remarquables observations de Maude Boyer ont donc des conséquences majeures pour notre compréhension de la différenciation du manteau et de la composition globale de la Terre. Maude Boyer.
Prix Léon Luteau.
Le prix est décerné à Roberto Compagnoni, professeur de géologie et pétrologie au département des sciences minéralogiques et pétrologiques à l'université de Turin, en Italie, pour ceux qui l'ignoraient. Roberto Compagnoni a développé les méthodes pour mettre en évidence des faciès dans les lithologies non classiques, telles que les ultrabasites ou les marbres. C'est un fin connaisseur des minéraux serpentineux ou abestiformes. Ses compétences lui ont permis de caractériser l'histoire des substratums montagneux alpins et plus anciens, et elles ont aussi été mises au service de recherches archéologiques ou biomédicales. Il a formé des chercheurs de qualité. Il a développé de nombreuses collaborations nationales et internationales, en particulier en étant l'âme de l'école doctorale internationale de Turin et en dynamisant la procédure des co-tutelles de thèse avec de nombreuses universités étrangères. Roberto Compagnoni.
Prix Deslandres.
Le prix Deslandres est décerné conjointement à Claude Catala, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au département spatial de l'Observatoire de Paris, et à Jean-François Donati, qui est absent, et qui est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse. Claude Catala et Jean-François Donati ont réalisé des spectrographes, ayant les meilleures performances mondiales sur le plan de la polarimétrie. Le rôle de la spectroscopie
a été au cœur de leurs recherches et au cœur des principales avancées qu'ils ont réalisées sur le magnétisme des objets stellaires et prestellaires. Claude Catala et Jean-François Donati.
Prix Jaffé.
Le prix Jaffé est décerné à Sylvain Latour, directeur de recherche au CNRS à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Le syndrome XLP est une immunodéficience rare d'origine génétique caractérisée par une susceptibilité anormale à l'infection par le virus d'Epstein-Barr. Ce syndrome est asymptomatique chez la plupart des individus. En identifiant un gène responsable de cette maladie, Sylvain Latour a permis d'en comprendre les mécanismes moléculaires. Il a aussi identifié une voie de signalisation originale impliquée dans la transduction de signaux d'activation dans les lymphocytes normaux. Les travaux de Sylvain Latour ont, outre une grande portée fondamentale, des applications physiopathologiques importantes, car ils établissent un mécanisme nouveau d'immunodéficience génétique avec de possibles applications thérapeutiques. Sylvain Latour.
Le prix Roger Jean et Chantal Gautheret.
Le prix est décerné conjointement à Richard Bligny, directeur de recherche au laboratoire de physiologie cellulaire végétale au CEA à Grenoble, et à Christophe Morel, directeur de recherche au laboratoire de biochimie et physiologie moléculaire des plantes à l'École supérieure d'agronomie de Montpellier. En associant des techniques complémentaires, Richard Bligny et Christophe Morel ont étudié le comportement des racines dans les terrains inondés. Ils ont montré que ces racines sont capables de moduler leur capacité de transport d'eau en réponse à des contraintes environnementales et notamment en milieu asphyxique. Cette modulation s'exerce par le biais de canaux à eau, aquaporines, localisés dans la membrane cellulaire, dont la fermeture coïncide avec la protonation d'un résidu histidine bâillant dans la lumière du canal. En terrain inondé, en bloquant le fonctionnement de certaines aquaporines situées dans les racines, la plante évite un engorgement en eau de ses principaux tissus, engorgement qui lui serait fatal. Richard Bligny et Christophe Morel.
Bien, mesdames et messieurs, avec ça se termine le palmarès des deuxièmes séances des prix de cet automne. Et nous allons maintenant donner la parole à Madame Annie Cazenave, qui nous fera une lecture. Madame Annie Cazenave de l'Académie des sciences et qui vient d'être élue à la National Academy of Sciences des États-Unis.
Alors, je vais vous parler de l'apport de l'espace à l'étude de la planète. Nous sommes tous habitués à voir régulièrement des images de l'atmosphère terrestre prises par les satellites météorologiques. Ces images, ainsi que nombre d'autres observations réalisées depuis l'espace, le sol et au sein même de l'atmosphère, alimentent des modèles grâce auxquels les météorologues peuvent prédire le temps qu'il fera. Alors que les cartes météo sont bien connues, on sait moins souvent que de nombreux domaines relatifs à l'environnement terrestre bénéficient aussi de la surveillance permanente des satellites, avec des applications, par exemple, à l'étude des risques naturels, au suivi des cultures agricoles, à l'occupation des sols et même au suivi des pollutions. L'observation de l'océan par satellite a atteint maintenant un degré de maturité tel qu'il est possible de prédire, comme en météorologie, l'état de l'océan quelques jours à l'avance. L'observation spatiale est aussi essentielle pour étudier l'intérieur de la planète et les phénomènes dont elle est le siège, comme la convection mantellique et le champ magnétique du noyau. Comme vous le savez, la Terre est un système complexe dont les différentes composantes interagissent sur des échelles de temps et d'espace extrêmement variées. Et pour décrire la globalité des phénomènes, les satellites sont des outils irremplaçables. Leurs avantages sont bien connus, ils offrent une vision globale, une résolution spatiale fine. Les observations couvrent des régions d'accès difficiles, elles sont réalisées de manière quasi continue ou souvent répétée. Les mesures sont bien étalonnées et rapidement accessibles. Dans un grand nombre de cas, les observations sont réalisées au moyen de techniques dites de télédétection, dont la caractéristique est de décrire à distance les propriétés d'objets naturels à partir des rayonnements qu'ils émettent ou qu'ils réfléchissent. Mais d'autres approches sont aussi développées pour déterminer les propriétés physiques à grande échelle du globe terrestre ou pour déterminer les déformations de la surface terrestre. Par exemple, on embarque sur satellite des instruments adaptés, on analyse les déformations des orbites des satellites ou encore on mesure des distances entre les satellites, le satellite et des balises placées à la surface terrestre. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques exemples d'applications scientifiques de l'observation spatiale du système Terre. Et pour commencer, je parlerai de la forme de la Terre et de son champ de gravité. Ronde ou aplatie ? Depuis Newton et puis les expéditions en Laponie et au Pérou, organisées par l'Académie des sciences au XVIIIe siècle, nous savons que la Terre est aplatie au pôle. Mais il a fallu attendre le début de l'ère spatiale, dans les années 60, pour découvrir que la Terre est un ellipsoïde bosselé. Sa surface irrégulière est dominée par deux grandes bosses s'étalant sur plusieurs milliers de kilomètres, l'une centrée sur l'Islande, englobant tout l'Atlantique Nord, et l'autre située au sud de l'Afrique, entre Madagascar et l'Antarctique. On observe aussi un grand creux au sud de l'Inde. Ces grands creux et bosses du globe terrestre ont un dénivelé d'environ 200 mètres. Ils reflètent la gravité non uniforme de la Terre, associée aux courants de convection montant et descendant dans le manteau terrestre. Alors, l'analyse des orbites des satellites géodésiques a permis d'établir des cartes très précises du champ de gravité de la Terre et de sa forme. Pourquoi ? Le satellite en orbite est soumis à différentes forces, comme l'attraction gravitationnelle de la Terre, de la Lune, du Soleil, des planètes. Il est aussi soumis au freinage de l'atmosphère résiduelle, à la pression du rayonnement solaire, aux effets de marée. Et toutes ces forces contribuent à déformer de façon très complexe l'orbite du satellite au cours du temps. À l'aide de méthodes d'orbitographie précises, aujourd'hui bien maîtrisées, on peut déterminer les déformations de l'orbite et par des procédés itératifs, déduire les forces agissant sur le satellite, dont le champ de gravité terrestre. Alors, plusieurs générations de modèles de champ de gravité terrestre à grande échelle ont été produites par cette méthode, en particulier par des chercheurs français. Ces modèles, analysés conjointement à des mesures de sismologie, ont permis de contraindre les variations de la viscosité du manteau terrestre avec la profondeur, donc la structure de la convection, phénomène responsable de l'expansion des fonds océaniques, du déplacement des plaques tectoniques et indirectement de la formation des chaînes de montagnes, de l'activité sismique et volcanique. Sur des échelles de temps plus courtes, disons inférieures à 1000 km, la forme de la Terre présente aussi des ondulations. Mais cela, on l'a découvert bien plus tard, non pas par l'étude des trajectoires des satellites, mais grâce à une autre technique qu'on appelle l'altimétrie spatiale. L'altimétrie spatiale a été développée dès le début des années 70 pour étudier les océans. Cette technique permet de cartographier directement la topographie de la surface de la mer à l'aide d'un radar altimètre embarqué sur le satellite. Une couverture complète des océans est obtenue en quelques jours seulement, avec un quadrillage très fin. Alors, mettons de côté pour l'instant les oscillations temporelles de la surface océanique liées au phénomène océanographique. On y reviendra tout à l'heure. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la surface moyenne de la mer n'est pas plane, mais elle est ondulée. Elle présente des creux et des bosses permanents dont la hauteur est de l'ordre de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Leur extension spatiale est de l'ordre de la centaine de kilomètres ou moins. Ces creux et bosses de la surface marine sont une véritable image des reliefs sous-marins. Au-dessus d'une montagne sous-marine, la mer se bombe de quelques mètres et au-dessus d'une fosse océanique, elle se creuse. En cartographiant ces ondulations, les satellites nous ont fourni des informations précieuses sur la topographie sous-marine. Pendant des décennies, la topographie des fonds marins a été mesurée par sondage acoustique à partir de navires, mais de vastes régions, en particulier dans l'hémisphère sud, sont restées totalement inexplorées. Grâce à l'altimétrie spatiale, dans le milieu des années 90, on a pu établir des cartes à haute résolution de l'ensemble des fonds marins et ainsi affiner la position des chaînes de volcans sous-marins, des dorsales océaniques, des zones de fracture, des zones de subduction. Mais on a aussi découvert d'autres structures jusqu'ici insoupçonnées ou incomplètement cartographiées à partir des bateaux. Par exemple, d'innombrables montagnes sous-marines dont la moitié n'avait jamais été cartographiée et quantité de reliefs fossiles témoins d'une activité tectonique aujourd'hui disparue. Ces données se sont avérées très utiles non seulement pour les géophysiciens, mais aussi pour la navigation sous-marine, la pêche commerciale et même l'exploration pétrolière en mer. Un autre domaine où les satellites ont apporté des informations majeures est celui du positionnement précis. Il y a 30 ans, on savait positionner un point à la surface de la Terre à 1 mètre près. Aujourd'hui, c'est à 1 millimètre près. Ce gain en précision d'un facteur 1000 a été rendu possible par les progrès de la technologie et il permet aujourd'hui de surveiller les déformations de la croûte terrestre dans les régions sismiques. Grâce au système de positionnement GPS dont on a entendu parler tout à l'heure, on sait mesurer les mouvements de la croûte terrestre avec une précision meilleure que le millimètre par an aujourd'hui. Une autre technique s'est avérée révolutionnaire dans ce domaine, c'est l'interférométrie radar. En comparant deux images radar d'une région survolée à deux dates différentes par un satellite radar imageur, on peut, par différence des images, détecter les mouvements du sol survenus dans l'intervalle de temps, avec une résolution au sol de l'ordre de la dizaine de mètres et une précision très très fine. Et des chercheurs français ont joué un rôle de pionnier dans ce domaine. L'interférométrie radar est maintenant combinée au positionnement GPS dans la plupart des régions sismiques du globe pour mesurer les déformations co-sismiques, post- et intersismiques. Et ces observations sont précieuses pour comprendre la genèse des tremblements de terre et les caractéristiques de la rupture de la croûte terrestre. On les utilise aussi pour mesurer les déformations du sol dans les régions volcaniques, l'écoulement des glaciers, les glissements de terrain et les subsidences du sol dues, par exemple, au pompage de l'eau, du pétrole ou du gaz. Alors, passons maintenant à l'océan. Alors, bien que l'altimétrie spatiale ait été développée dans les années 70, ce n'est qu'au début des années 90, avec le lancement du satellite franco-américain Topex Poséidon, que l'océanographie spatiale a réellement vu le jour. Il a fallu attendre presque 20 ans pour que la précision de mesure de la topographie de surface de la mer devienne suffisamment fine pour détecter le signal océanographique. Ce signal est en effet 10 à 100 fois plus faible que celui des ondulations permanentes de la surface marine dont j'ai parlé tout à l'heure. La précision de mesure de hauteur de la mer par altimétrie spatiale est aujourd'hui de l'ordre du centimètre. Alors, l'océan est le siège de mouvements complexes à petite et grande échelle spatiale, agissant sur des échelles de temps extrêmement variées. Grâce à l'altimétrie, on a découvert que l'océan, tout comme l'atmosphère, est un système hautement turbulent. Il est le siège de tourbillons très énergétiques de petite longueur d'onde et de courte durée de vie. La description fine de cette circulation turbulente, aujourd'hui possible avec l'altimétrie, est essentielle pour comprendre la dynamique de l'océan, y compris la circulation à grande échelle avec laquelle elle interagit. Les phénomènes océaniques de grande échelle spatiale et de longue durée de vie, disons de plusieurs années à plusieurs décennies, caractérisent le climat de l'océan. Nous savons aujourd'hui que l'océan est un extraordinaire régulateur du climat planétaire grâce à sa capacité à stocker la chaleur et à la transporter sur de grandes distances au moyen d'une circulation océanique complexe avant de la restituer à l'atmosphère. Grâce à l'observation spatiale de l'océan, on peut suivre l'évolution de la position et de l'intensité des grands courants océaniques. Et la circulation océanique dans l'Atlantique Nord est l'objet d'une attention toute particulière, car c'est dans cette région que les eaux froides et salées plongent en hiver vers l'océan profond. Ce mécanisme entretient la circulation à grande échelle de l'océan, dont le Gulf Stream n'est qu'une des branches superficielles. Et comme vous le savez, ce courant contribue à la douceur du climat européen en transportant la chaleur des tropiques vers le nord. Mais on s'attend à ce que l'apport accru d'eau douce due à la fonte des glaces arctiques ralentisse la circulation dans l'Atlantique Nord, avec des conséquences possibles sur le climat européen. L'altimétrie spatiale nous a aussi permis de décrire les grandes perturbations du système climatique océan-atmosphère, comme le phénomène El Niño qui survient tous les 4 ou 5 ans dans le Pacifique tropical, mais dont les répercussions climatiques affectent la planète entière, avec des sécheresses, des précipitations intenses ou des inondations suivant les régions. Un autre exemple, la hausse du niveau des mers que l'on mesure aujourd'hui globalement avec les satellites altimétriques, Topex Poséidon dont j'ai parlé, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, et ses successeurs, Jason 1 et Jason 2. La hausse moyenne actuelle du niveau de la mer atteint presque 4 mm par an. Elle est deux fois plus rapide que celle mesurée par les marégraphes au cours des 50 dernières années. En plus, cette élévation n'est pas uniforme. Dans certaines régions, comme l'ouest du Pacifique, la hausse est 5 fois plus rapide que la moyenne. La hausse actuelle du niveau de la mer résulte de deux phénomènes principaux, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces continentales. Grâce à des mesures de température de l'océan, collectées par des bateaux et des bouées dérivantes, on a découvert que depuis une trentaine d'années, l'océan s'est beaucoup réchauffé. Résultat, la mer se dilate et son niveau monte. Ce phénomène de réchauffement de l'océan explique environ la moitié de la hausse du niveau des mers mesurée par les satellites altimétriques depuis 15 ans. L'autre moitié résulte de l'apport d'eau douce à l'océan causé par la fonte des glaciers continentaux et la perte de glace de certaines régions du Groenland et de l'Antarctique. En raison de leur situation reculée, les calottes polaires, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique, bénéficient avantageusement de l'observation spatiale. Plusieurs techniques spatiales, comme l'altimétrie et l'interférométrie radar dont j'ai déjà parlé, ainsi qu'une toute nouvelle technique, la gravimétrie spatiale, permettent d'estimer les variations de masse de glace des calottes polaires. On a ainsi détecté qu'au cours des 5 dernières années, le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest ont perdu chacun environ 130 milliards de tonnes de glace par an. On a aussi découvert que cette perte de masse de glace résulte principalement de l'écoulement très rapide des glaciers côtiers vers la mer, sous l'effet d'instabilité dynamique dont les mécanismes ne sont pas encore totalement compris. La mesure globale et continue de l'évolution du niveau de la mer par altimétrie spatiale et une bonne compréhension des différentes causes de cette évolution sont d'un intérêt considérable pour l'amélioration des modèles de climat utilisés pour calculer la hausse future et étudier les impacts dans les régions côtières basses et hautement peuplées de la planète. Dans ces régions se conjuguent les effets du réchauffement climatique via la hausse du niveau des mers et les effets de subsidence du sol liés à des phénomènes naturels ou bien à des facteurs anthropiques comme le pompage des eaux souterraines ou du pétrole. C'est le cas par exemple dans le golfe du Mexique où le sol s'enfonce aujourd'hui à une vitesse de près de 1 cm par an à cause de l'exploration pétrolière. Et là, dans ces régions, la hausse du niveau des mers vient alors amplifier la vulnérabilité des zones côtières. Nous avons vu que l'océan est le principal réservoir de chaleur du système climatique, mais il joue un autre rôle important dans l'évolution du climat en absorbant annuellement un tiers du carbone émis par les activités humaines. Grâce à des capteurs spatiaux mesurant la couleur de l'océan, on peut étudier l'activité chlorophyllienne du phytoplancton et estimer la quantité de carbone atmosphérique absorbée annuellement par la photosynthèse. Mais le réchauffement des eaux superficielles pourrait bien modifier la capacité de l'océan à stocker les rejets de carbone anthropique. Et à cela s'ajoute l'acidification actuelle des eaux océaniques et son impact négatif sur les écosystèmes marins. Ces phénomènes sont de nature à modifier le cycle océanique du carbone. Et là encore, l'observation spatiale est incontournable pour mieux comprendre ces évolutions. Pour terminer, je voudrais évoquer une nouvelle application de l'espace à une thématique importante pour les sciences de l'environnement et du climat. Il s'agit de l'étude des eaux continentales. Les eaux continentales représentent moins de 1% du montant total de l'eau sur Terre, mais elles ont un impact majeur sur la vie terrestre et les besoins des humains. Elles jouent également un rôle important dans la variabilité du climat. Et pour cette raison, la description précise du cycle de l'eau sur les terres émergées est tout à fait nécessaire car elle permet une meilleure prévision du climat et un contrôle affiné des ressources en eau de la planète, nécessaire par exemple à l'agriculture, à l'urbanisation ou encore à la production d'énergie hydroélectrique. Mais pour décrire ce cycle de l'eau continentale à l'échelle des bassins fluviaux, on manque terriblement d'observations au sol. Dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les pays du Sud, les réseaux de mesure in situ sont en chute libre pour des raisons principalement économiques. Quand ces réseaux sont encore maintenus, leurs mesures sont souvent inaccessibles pour des raisons politiques ou stratégiques. Heureusement, je dirais, depuis plusieurs années, certaines techniques spatiales comme l'imagerie, la radiométrie, l'altimétrie et la gravimétrie permettent d'accéder à des paramètres importants en hydrologie continentale. On est capable à présent de mesurer les variations du niveau d'eau des fleuves, du volume d'eau des lacs ou des plaines inondées, l'humidité des sols, ou encore les variations des stocks d'eau dans les réservoirs souterrains. Les produits hydrologiques issus de l'observation spatiale ont bien sûr de nombreuses applications utilisées conjointement avec des modèles hydrologiques. Par exemple, l'estimation du bilan hydrique dans les grands bassins fluviaux, le débit des fleuves, la prédiction des crues dans les petits bassins versants, ou encore l'estimation à grande échelle des ressources en eau, en particulier dans les nappes souterraines. Dans certaines régions du globe, la diminution de la ressource hydrique associée à une pression anthropique croissante constitue un enjeu géopolitique majeur. La vision à grande échelle offerte grâce à l'espace, des ressources disponibles pourraient contribuer à mieux appréhender ces questions. Pour conclure, je dirais que dans le domaine des géosciences et dans d'autres domaines dont je n'ai pas parlé, comme les sciences de l'atmosphère, l'astronomie et la planétologie, la communauté scientifique française a joué et joue encore un rôle important. Et ce n'est probablement pas un hasard, mais sans doute le résultat de sa participation de longue date aux efforts déployés par la France dans le domaine de la recherche spatiale, le résultat de l'existence d'une agence spatiale nationale, le CNES, et de l'attitude très ouverte de ses dirigeants successifs pour les applications scientifiques de l'espace. Parmi ceux-ci, plusieurs membres de cette académie ont joué un rôle éminent. Le bref survol que nous venons d'effectuer montre que les systèmes spatiaux ont la capacité de mesurer un grand nombre de phénomènes terrestres à des échelles spatiales et temporelles variées, avec un échantillonnage sans précédent. Avec les progrès attendus de la technologie, nous ne sommes qu'à l'aube d'une connaissance plus approfondie de la planète. Aujourd'hui, grâce à l'espace, nous ne décrivons plus seulement une Terre statique, mais une Terre dynamique, en évolution permanente, sous l'effet des phénomènes naturels et de la pression anthropique. Les données collectées par les satellites servent aussi à alimenter des modèles de prévision, mais au service de la société et des décideurs politiques en vue d'une meilleure gestion de la planète. Mais dans le domaine de la science, rien n'est jamais figé et la recherche de base doit pouvoir progresser de concert avec les applications opérationnelles. Un message qui n'est pas toujours très facile à faire passer, en particulier au plan européen. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Annie Cazenave, membre de l'Académie des sciences, directrice adjointe du laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS. Elle évoquait l'apport de l'espace à l'étude de la planète. Vous avez également pu écouter la remise des grands prix et parmi eux la grande médaille de l'Académie des sciences, remise à Suzanne Solomon, associée étrangère à l'Académie des sciences. Suzanne Solomon avait reçu le prix Nobel de la paix en 2007 conjointement avec Al Gore pour son travail au sein du GIEC. Au cours de cette cérémonie, d'autres prix thématiques ont été remis. Vous trouverez les détails de ces distinctions ainsi que les noms de leurs lauréats sur le site de l'Académie des sciences au www.académie-sciences.fr. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de prochaines retransmissions.